Bonsoir à tous. Mon choix d'horaire ce soir pour vous proposer ce récit n'est pas innocent. Pour la plupart d'entre nous, nous nous apprêtons sans doute à nous mettre au lit et nous allons peut-être ouvrir un livre et nous plonger au cœur d'une histoire qui nous plaît. Et c'est justement d'une de ces histoires, ou plutôt d'un des personnages au cœur de cette histoire, dont il va être question ce soir. Si je vous dis Neverland, si je vous dis le pays de jamais, si je vous dis Captain Hook, si je vous dis encore Wendy et Clochette, un nom vous vient de suite à l'esprit, j'en suis sûre, celui de Peter Pan. Peter Pan a bercé notre enfance, il a aussi accompagné notre âge adulte, puisque le personnage créé au départ par James Matthew Barry a vu bon nombre d'adaptations au fil des années depuis sa création. Et c'est de ce personnage et de la réalité de celui-ci dans la conception même qu'a voulu James Matthew Barry, dont il va être question dans ce récit ce soir. Je vous propose donc de découvrir ou de redécouvrir Peter Pan. La première fois que j'ai regardé Peter Pan, le Peter Pan de Walt Disney, celui qui a presque totalement fait oublier le Peter Pan de James Matthew Barry, l'auteur même de l'histoire du personnage, j'ai eu peur. Oui, j'ai eu peur, et je vais vous dire pourquoi. Dans les premières images que nous apercevons de Peter, on ne le voit pas, du moins pas directement. On devine Peter. On devine une petite silhouette perchée sur le toit de la famille Darling. Celle-ci ne soupçonne même pas son existence. Elle est bien loin d'imaginer qu'il y a un intrus perché sur son toit, qui les écoute. Elle ne soupçonne en aucun cas les intentions que cet intrus peut avoir pour les enfants Darling qui vont se retrouver tout seuls à la maison pour la nuit, puisque les parents doivent se rendre à une soirée mondaine. Peter Pan est donc perché sur le toit des Darling, or, on devine à peine sa silhouette. L'élément que l'on voit en tout premier et qui m'a glacé sont les yeux de Peter. Ils sont perçants, ils rendent presque mal à l'aise et le visage s'éclaire en un sourire assez goguenard, laissant transparaître de façon assez subtile les intentions de Peter qui pourrait être beaucoup moins gentille que prévu. Que fait-il là, Peter Pan? C'est la question que je me pose, puisqu'au tout départ, on ne sait pas qui il est. Lorsqu'enfin il entre en pleine lumière, il semble porter un déguisement. Peter est revêtu entièrement de vert, et ce costume n'est pas innocent. Si vous avez pu regarder les adaptations, notamment de Robin des Bois, les adaptations des années 50, vous remarquerez que l'habit de Peter Pan est assez similaire à celui porté notamment par Errol Flynn dans son adaptation de Robin des Bois. On peut dire, d'une certaine façon, que Peter Pan a revêtu la tenue de Robin Hood, qui est un hors-la-loi, parce que tout simplement, le personnage même de Peter est un hors-la-loi. Il est hors du temps, il est hors des lois de ce monde et refuse de s'y conformer puisqu'il refuse tout simplement de grandir. Peter Pan est là parce qu'il aime écouter les histoires de Wendy. Wendy est la plus âgée des enfants Darling. Elle n'est pas une adulte, elle n'est pas encore entrée pleinement dans l'adolescence, mais elle a largement dépassé l'âge de raison. Ses deux autres frères, Jack et Michel, eux sont plus jeunes, ils sont encore dans l'âge de raison, ils adorent mettre en scène les histoires que leur raconte tous les jours Wendy et tous les soirs pour les endormir dans moult jeux. Si les enfants sont très enthousiastes, on le voit notamment au début du dessin animé, leurs parents le sont beaucoup moins. C'est notamment le cas pour Monsieur Darling. Monsieur Darling semble être un personnage obtus et cartésien qui ne partage pas du tout l'enthousiasme de ses enfants pour le merveilleux. Madame Darling, elle... Eh bien, on va dire que ce merveilleux ne la dérange pas tant qu'il n'interfère pas dans son quotidien de prime abord. Elle laisse donc ses trois enfants, après, en essayant et en tentant d'adoucir la sentence de son mari, puisque celui-ci, agacé par les proportions qu'ont pris un des jeux des deux garçons, ayant pour but de mettre en scène une des batailles opposant Peter Pan aux pirates, a décidé que ça y est, Wendy allait quitter la chambre des enfants et allait avoir enfin sa propre chambre. Preuve de son changement de statut, preuve qu'elle allait devoir grandir. Autant dire que les trois enfants sont scandalisés et ils ne sont pas les seuls, parce que Peter Pan n'en perd pas une miette. Sauf que s'il est là, certes, pour écouter les histoires de Wendy, puisqu'il les écoute tous les soirs, afin d'aller ensuite les rapporter à ses petits compagnons, les fameux enfants perdus, là, c'est différent. On apprend que Nana, la bonne chienne de la famille, a piqué, a chippé à Peter son ombre. Et que donc, c'est Wendy qui l'a récolté et qui décide donc de confronter Peter. Sauf que Peter Pan n'est pas tout seul. Il y a Clochette. La fée Clochette qui est assez jalouse, on s'en rend vite compte. Et très vite, bien entendu, Peter Pan fait part de son projet. Il veut que Wendy l'accompagne au pays imaginaire. Wendy ne réfléchit pas énormément et ses deux frères l'accompagnent. Alors bien évidemment, on a tous en tête la chanson « Tu t'envoles ». Tel un rossignol, et on a tous en tête également l'adresse du pays imaginaire et leur façon pour s'y rendre. Parce que si Peter Pan vole aussi naturellement qu'un oiseau, les enfants et Wendy n'ont pas le vol dans leur patrimoine génétique. Ils vont devoir bénéficier de la poudre de Clochette pour pouvoir se rendre, à la suite de Peter Pan, au pays imaginaire. Sauf que la réalité voulue par Barry est un peu différente. Le personnage de Peter Pan créé par James Matthew Barry est loin d'être aussi aimable comme il est envers les enfants Darling en leur proposant de les rejoindre et en leur apprenant à voler. En fait, Peter Pan recrute des enfants qui sont abandonnés au tout départ. Si au bout de 7 jours, un enfant n'est pas réclamé par ses parents, et cette date de 7 jours est très importante, Peter Pan l'emporte au pays imaginaire. Seulement voilà, il doit leur apprendre à voler. Et Peter Pan ne partage pas du tout, comme il le fait avec Wendy, John et Michel, la fameuse poudre de Clochette. Et pour cause, c'est un ajout très tardif de James Matthew Barry pour dissuader les petits Britanniques d'imiter Peter. Parce qu'au moment où une des premières versions de Peter Pan et de Wendy sort, il n'était en aucun cas fait mention d'une poudre pour permettre de voler. Si bien que bon nombre de petits Britanniques ont voulu essayer eux aussi de voler sans succès et se sont blessés assez gravement, ce qui a poussé James Matthew Barry à revoir son récit et à donc faire apparaître un objet qu'il serait impossible de se procurer, à savoir la poudre de fée, pour dissuader les petits Britanniques de réitérer l'expérience. Donc, Peter Pan apprend aux enfants, aux futurs enfants perdus qu'il recrute, à voler. Sauf que Peter, eh bien, on va dire que ses intentions, elles ne sont pas forcément aimables. Si il apprécie de voir les enfants se lancer à l'assaut et se jeter dans le vide, il va intervenir dire presque au tout dernier moment, au moment où les enfants sont prêts à toucher le sol, pour au final les aider et leur permettre de voler. Et des fois, Peter Pan n'intervient pas du tout et les enfants se blessent gravement, voire se tuent. Peter Pan est donc très loin, à l'opposé, d'être le petit personnage fort insouciant que nous montre Walt Disney. Après le vol et le trajet donc qui va les guider jusqu'à l'étoile, jusqu'aux deux étoiles qui indiquent l'emplacement de Neverland, eh bien l'île se dessine. Walt Disney en fait une île où dans chaque partie de celle-ci, il y a une population bien définie. Au nord de l'île, on trouve les Indiens avec leur camp. Au sud-est, on va trouver la lagune des sirènes. Et au sud-ouest, on va trouver le capitaine Crochet et ses pirates. Tout est bien organisé. Dans l'histoire de James Matthew Barry, c'est différent. Neverland est beaucoup, beaucoup plus étendu qu'une simple île. Il y a des montagnes, il y a des collines, il y a toute une végétation immense à explorer. Ce n'est pas seulement une île, c'est presque un pays entier qui est sous la gouvernance de Peter, des pirates, des sirènes et des Indiens. Autant dire que lorsque Peter Pan arrive, ils sont bien vite confrontés aux habitants de Neverland et aux plus vindicatifs d'entre eux, à savoir les pirates qui les accueillent par des coups de canon. Il faut savoir que le choix de James Matthew Barry d'introduire les personnages des pirates n'est pas innocent. Ce sont des adultes. En effet, Hook et son équipage sont presque les seuls adultes du pays imaginaire. Être adulte veut dire tout simplement vieillir. Les sirènes, elles, ne vieillissent pas, ce sont des personnages mythologiques. Quant aux Indiens, du moins à ceux de la manière dont Barry les décrit, ils ont presque quasiment le même âge que les enfants perdus ou sont à peine un peu moins âgés que les pirates. Bref, tout ce petit monde semble cohabiter en une certaine harmonie. Chacun a son périmètre, a son espace bien délimité et ne va donc pas aller bousculer celui des autres. Walt Disney nous montre donc l'accueil fanfaronnant tout en canonnant que Crochet et ses pirates réservent à Peter et à ses invités. Peter Pan décide donc de mettre Clochette, John et Michel à l'abri et va donc demander à Clochette de le faire. Sauf que Clochette, eh bien là, c'est un petit clin d'œil justement à ce que je disais avant. Elle ne va pas le faire. Elle va vouloir volontairement laisser Wendy tomber en appelant aux enfants perdus pour la canarder. Walt Disney glisse là un clin d'œil au vrai caractère de Peter et au fait que celui-ci n'avait aucune vergogne et aucun sentiment à sacrifier volontairement des enfants perdus pour son bon vouloir, presque pour son plaisir, parce que là il y a une rivale et que Clochette souhaite ni plus ni moins que se débarrasser de Wendy. Or, au final, elle n'y arrive pas, puisque Peter Pan intervient et sauve la jeune fille. Entre-temps, nous avons fait aussi la connaissance du capitaine Crochet, de James Hook. Le capitaine Crochet est donc le rival de Peter Pan, son opposé, celui avec lequel il va chercher le plus querelle et on apprend dans l'adaptation de Disney qu'en plus, il lui a tranché la main et qu'il a donné à manger à un certain crocodile. qui porte le nom de Tic Tac. Et pourquoi Tic Tac? Parce qu'il a avalé un réveil matin qui permet aux pirates de pouvoir anticiper son approche, puisque le réveil signale par un Tic Tac l'arrivée du crocodile. Autant dire que Tic Tac, qui semble avoir apprécié le goût de la main de crochet, souhaite tout simplement avaler le reste et va donc vouloir poursuivre Crochet de ses ardeurs. Autant dire que celui-ci est terrorisé. Et petit, ça nous fait rire. Sauf que dans l'adaptation de Barry, c'est un petit peu différent. Le crocodile, et surtout le réveil matin, symbolise le temps qui passe, mais il symbolise surtout la mort. Le rappel que la vie de Crochet va finir par s'éteindre à un moment et s'arrêter, tout simplement. Et Crochet en a peur et il veut l'éviter à tout prix. Au final, dans l'adaptation de Walt Disney, Tic Tac sent que cette fois-ci ce n'est pas la bonne et il finit par repartir chassé par Monsieur Mouche. Les enfants, eux, de leur côté, se mettent à explorer le pays imaginaire et vont se retrouver face aux Indiens. Aux Indiens qui finissent par les amener à leur campement et à les attacher à leur totem. Et là, un des enfants perdus fait une confidence. Une confidence qui est là aussi un petit indice qui renvoie à l'œuvre originale de James Matthew Barry. Un des petits garçons perdus explique aux deux frères que c'est tout simplement un jeu. Que des fois, ce sont les Indiens qui les attrapent et qui les attachent. Et qu'à d'autres moments, ce sont les garçons perdus qui les attrapent et qui les attachent. Et que du coup, ensuite, eh bien, chacun est relâché et repart de son côté. Ça aussi, c'est un petit clin d'œil à l'histoire originale voulue par James Matthew Barry. Parce que, en effet, tout cela n'est qu'un jeu pour Peter Pan. Un immense jeu. Sauf que c'est un jeu où la mort a une part importante, puisque Peter Pan tue. Il a beau être un enfant et être doté d'une insouciance, il n'a aucun sentiment à tuer autant pirates indiens qu'enfants perdus, parce que tout simplement, comme il est un enfant, il vit dans l'instant et il oublie ses actes aussitôt. Pour lui, c'est un jeu. À des moments, il va commencer la partie auprès des garçons perdus, et puis, d'un seul coup, parce que ça lui prend, il va décider de prendre le parti des pirates. Et voilà donc qu'il se joint d'un seul coup, sans que l'on comprenne même pourquoi, à l'équipage du capitaine Crochet, et va donc participer à attaquer, à blesser, même à tuer, certains enfants perdus, pour au final terminer la partie en se retournant contre les pirates. Bref, c'est un jeu. Sauf que là, non, cette fois-ci, le chef des Indiens explique que ce n'est pas un jeu, comme à l'habitude, et pour cause. Lily la tigresse, la fille du chef, qui est aussi un personnage que l'on retrouve dans l'œuvre originale de Barry, a été enlevée par Crochet, parce que celui-ci ne sait pas où Peter Pan se cache. Il souhaite tout simplement être au courant de la cachette, et il pense que Lily la tigresse va la lui communiquer. Or, celle-ci ne le fait pas. Elle ne lui communiquera pas la cachette. Crochet s'énerve et il finit par être interrompu par Peter Pan qui va imiter assez bien Crochet pour finir par duper même Monsieur Mouche. Et ça annonce justement le changement de stature de Peter Pan qu'on entreapercevra à la fin du dessin animé et qui annoncera une suite officielle validée par l'hôpital des enfants qui gère les droits, la fortune de James Matthew Barry et qui a son mot à dire sur les adaptations qui vont suivre quant à la présentation de l'œuvre de Peter Pan pour les générations futures. Peter Pan sauve la tigresse et une fête est donnée au camp des Indiens. Et Peter Pan est tout en émoi face à Lily la tigresse. Sauf que comme il est un enfant, il ne comprend pas, lui, ce que peut commencer à ressentir Wendy quant à une potentielle attirance. Son visage s'empourpre, mais il ne sait pas plus faire la différence entre un bisou, un câlin ou toute autre caresse. Et pour cause, il n'y a pas de maman. Si Peter Pan décide de faire venir Wendy, et c'est aussi le cas dans l'adaptation de James Matthew Barry, c'est pour que celle-ci puisse prendre un rôle central, un rôle qui manque, et que James Matthew Barry essaiera d'une certaine façon de combler, de faire combler l'absence, celle de la mère. Il faut une maman aux enfants perdus. Et justement, la fin de Peter Pan, eh bien, va leur donner une maman, mais nous n'en sommes pas encore là. Si Lily la tigresse, dans l'adaptation de Walt Disney, décide de tenir sa langue et elle ne communiquera pas la cachette de Peter Pan, qui est donc l'arbre pendu, eh bien ce ne sera pas le cas de Clochette. Clochette est piquée au vif et ne supporte toujours pas Wendy, sa rivale. Elle décide donc de se venger parce que Peter Pan l'a tout simplement oubliée. Et une fois qu'on oublie une fée, celle-ci commence à perdre de son éclat et disparaît. Clochette a donc peur de disparaître et ça, elle ne le veut à aucun prix. Elle décide donc d'aller trouver Crochet. Et pour Crochet, vous vous en doutez bien, l'occasion est trop belle. Il va donc proposer un marché à Clochette. Celle-ci lui communiquera le lieu où réside Peter et Crochet va lui jurer sur sa main et son crochet qu'il ne fera aucun mal à Peter. Tout juste lui déposera-t-il un paquet cadeau en guise de trêve et de bons sentiments. Sauf que Clochette pense pouvoir repartir. Mais elle a été prise à son propre jeu. Elle est enfermée par Crochet. Et celui-ci compte bien se débarrasser de Peter Pan et reprendre le contrôle sur tout le pays imaginaire. Il faut dire que Crochet est contesté par son équipage qui ne comprend pas pourquoi il ne peut plus voguer sur les mers. Ils sont pirates et les pirates abordent des navires. Les pirates collectent des trésors. Les pirates ne restent pas en stationnaire des mois, des années durant dans une lagune afin de satisfaire la lubie de leur capitaine pour se battre tous les jours. Que Dieu fait face à un gamin insolent qui les ridiculise autant que faire se peut. C'est dire si Crochet sait l'urgence de la situation, s'il ne veut pas perdre aussi son équipage et s'il ne veut pas que celui-ci tout simplement se mutine. L'affaire est donc entendue. Crochet fait donc descendre un paquet cadeau par le haut de l'arbre du pendu avec un petit mot qui indique à Peter Pan l'heure à laquelle il devra expressément et surtout pas avant ouvrir le paquet. En effet, Peter Pan ne le sait pas, mais il y a une bombe assez puissante pour le réduire autant lui que l'arbre du pendu en cendres. Sauf que Clochette, qui finit tant bien que mal par s'extraire de sa prison, tente de venir prévenir Peter. Elle va le faire au tout dernier moment et elle va réussir, mais elle est en train de s'éteindre. L'arbre du pendu est dévasté, Peter est projeté en dehors et Clochette, elle, est sagement amochée. Et Peter Pan décide tout simplement lui aussi de se venger parce que Wendy et ses frères, eux, ont été enlevés. On leur ordonne de rejoindre le rang des pirates et ceux-ci refusent. Après tout, qui pourrait les sauver ? Peter Pan est mort, mais celui-ci fait une entrée triomphale et décide de combattre Crochet. Là où on pense que la partie est gagnée, Crochet, qui ne manque pas d'une méchante ruse, s'apprête à poignarder Peter presque dans le dos, mais celui-ci parvient sans mal à se soustraire de l'emprise de Crochet et Crochet se retrouvent du coup presque à tomber dans le vide, sauf qu'il y a quelqu'un en dessous qui s'apprête à le recevoir. Tic-tac, qui sent que cette fois-ci, son heure de faire un bon repas est venue. Alors on ne sait pas si dans l'adaptation de Walt Disney, il va tout simplement le dévorer, puisque en fait, il le poursuit, puisque il a essayé de l'attraper dans sa gueule, mais en fermant celle-ci, ça propulse Crochet qui fait des ricochets, et le reste de l'équipage le suit. Et la toute fin de Peter Pan montre justement Peter Pan qui prend le commandement du bâtiment de Crochet, du navire de Crochet, pour ramener Wendy et ses frères à Londres. Et un capitaine se doit d'avoir une tenue adéquate. Fini pour Peter son petit costume de hors-la-loi. Il revêt les habits de Crochet, il revêt la redingote, il revêt le chapeau à plumes retombantes de Crochet et il porte aux côtés le sabre du capitaine. Il n'est plus Peter Pan à ce moment-là, il prend la mise, il prend la voix, il prend l'attitude du capitaine Crochet. Et il débarque donc, Wendy et ses frères, et il repart au pays imaginaire. Et lorsque le dessin animé se clôt, les darlings, qui ont oublié au final, après cette colère qui les a traversés, qui décident au final de laisser à Wendy quelque temps encore dans la chambre d'enfant, eh bien, Monsieur Darling, tout d'un coup, se rappelle en voyant ce navire qui est tout simplement fait de nuages, il se rappelle que lui aussi, il a vu ce bateau il y a très longtemps, quand il était enfant, et on laisse Peter Pan ainsi. Autant dire que l'œuvre de Walt Disney nous amène une version bien adoucie de Peter. Il n'est pas ce petit garçon à la personnalité sanguinaire qui n'a de cesse de vouloir se débarrasser de ce qui l'encombre. Il n'est pas ce personnage caustique, ce personnage méchant et surtout ce personnage extrêmement égocentrique. Au contraire, il est un personnage insouciant, attachant, qui assume son fait de ne pas grandir, qui n'est pas méchant, qui fait juste uniquement le fait de se défendre face aux pirates et qui est très attaché aux enfants perdus. Ça, c'est la réalité Walt Disney. Nous allons donc voir maintenant que le Peter Pan de James Matthew Barry, et j'ai déjà essayé de vous l'introduire par quelques petits clins d'œil, est légèrement, voire totalement différent de sa version adoucie de Disney, et nous allons voir aussi qu'en fait, Peter Pan, il a vraiment existé. C'est ni plus ni moins que son auteur, James Matthew Barry, qui lui aussi, d'un seul coup, s'est réellement arrêté de grandir. Nous venons de reprendre le déroulé du dessin animé de l'adaptation faite par Walt Disney de l'œuvre de James Matthew Barry, Peter Pan. Il en a donc livré une version adoucie, bien adoucie, du caractère de son personnage principal, à savoir de Peter Pan, ce petit garçon qui a décidé qu'il ne voudrait pas grandir. Peter Pan assume son fait et sa volonté de rester un enfant et de ne pas vouloir se conformer aux lois du monde dans lequel il est né et dans lequel il aurait dû grandir. Il a donc décidé de rejoindre ce pays de jamais, ce Neverland, et d'en être presque l'un des gouverneurs, l'un des rois, et que dans ce Neverland, eh bien, on ne suivrait que ses règles. Si il décide un jour qu'il participera au combat aux côtés des pirates, eh bien, il sera un pirate. Si un jour il a décidé qu'il se débarrasserait de quelques enfants perdus, eh bien, il en serait ainsi, et personne n'aurait à contester sa loi. Peter Pan est donc un souverain de ce royaume de jamais, de ce royaume peuplé d'êtres étranges qui cohabitent tant bien que mal. Des sirènes aux pirates, des indiens aux enfants perdus, Cette population se désole d'être à la fois dans ces endroits, mais ne peut se résoudre en même temps à le quitter. James Matthew Barrie présente Peter Pan comme un petit garçon fort malicieux, tout à fait au courant des qualités qui sont les siennes, assumant parfaitement ses défauts et décidant d'imposer sa loi à tout un chacun. Rien n'est gratuit avec Peter. Et il prend donc plaisir à rappeler à tous ceux qu'il recueille et qu'il choisit comme étant des enfants perdus que c'est à lui, Peter, que revient le choix de les accepter ou pas et de leur permettre ou pas de rejoindre Neverland. Il n'est en aucun cas question de dispenser de la poudre de fée comme on le voit dans l'adaptation de Walt Disney. Peter Pan peut se réserver le choix de laisser tout simplement tomber de plusieurs mètres de haut un enfant perdu parce qu'il a décidé qu'au final il ne souhaitait pas que celui-ci rejoigne Neverland. Peter Pan est certes insouciant, mais il a une insouciance pour camoufler justement ses actes odieux. Car les enfants perdus sont soumis entièrement au bon vouloir de leur maître, parce que Peter Pan n'est pas l'ami des enfants perdus. Ceux-ci sont ses obligés. Ils doivent faire ses quatre volontés, et si ceux-ci commencent à se rebeller, eh bien Peter Pan n'a aucun scrupule à s'en débarrasser. Et pour cause, son insouciance lui fait même oublier le crime qu'il vient de commettre. Quand quelques années plus tard, Wendy, devenue adulte, demandera à Peter, dans l'adaptation de James Matthew Barrie, si celui-ci se rappelle comment il a tué le capitaine Crochet, Peter Pan éclate de rire. Non, il ne s'en souvient pas. Et pour cause, à peine il aurait commis un tel acte qu'il l'oublie aussitôt. Pour lui, pourquoi se préoccuper de tout ça ? Peter Pan est comme un enfant, presque comme un animal, il est dans l'instantanéité du moment. Ce qui est passé ne l'intéresse plus, ce qui est présent à peine, quant au futur, il ne s'en préoccupe même pas. On pourrait qualifier Peter Pan, et d'autres l'ont fait, de personnage fortement égocentrique, atteint de toutes les pathologies psychiatriques. D'ailleurs, il y aura une pathologie qui portera son nom, le syndrome de Peter Pan. Peter Pan est donc de cette insouciance. Cette insouciance, certes, mais qui cache de bien assez mauvais côtés. Comme je l'ai dit, Peter Pan régit les règles de Neverland. Il rappelle à chacun leur place. Les règles peuvent changer au bon vouloir de Peter. Peter Pan côtoie donc d'autres personnages. Il va côtoyer le capitaine Crochet, il va également côtoyer les sirènes, les Indiens. Il côtoie la faune et la flore de Neverland, car dans l'œuvre de James Matthew Barrie, Neverland est beaucoup plus étendu que la petite île qu'on entreaperçoit dans l'adaptation de Walt Disney. Mais Peter Pan, si il fait de ses enfants perdus ses obligés dans l'adaptation de Barrie, ceux-ci peuvent aussi montrer leur volonté propre. C'est ainsi que l'absence de parents, et notamment de maman, commence à peser à certains enfants perdus. Et c'est pour ça justement que Peter Pan a fini par jeter son dévolu sur la famille Darling et sur la petite Wendy, parce que celle-ci raconte fort bien les histoires et que c'est une fille. Et une fille, ça joue à être une maman. Alors après tout, pourquoi Wendy ne ferait-elle pas office de maman pour la troupe des enfants perdus ? Seulement voilà, Wendy elle aussi décide de retrouver ses parents. Et ce qu'elle va faire, c'est que Monsieur et Madame Darling vont se retrouver à la tête de bon nombre des enfants perdus qui vont quitter le pays imaginaire. Seulement voilà, quand on quitte le pays imaginaire, c'est un aller sans retour. On ne peut plus y retourner. Le pays imaginaire n'est accessible qu'aux enfants, et encore aux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de raison, c'est-à-dire aux petits enfants, jusqu'à 9 voire 10 ans grand maximum. Après, on passe à l'adolescence et à l'âge adulte, et on ne peut plus du tout reprendre la direction du pays imaginaire. Mais vous allez me dire, pourtant il y a des adultes au pays imaginaire, il y a le capitaine Crochet. Mais justement, le capitaine Crochet est tout ce que réprouve Peter Pan. C'est pour cela que James Matthew Barry les fait s'opposer si souvent. Il a besoin d'un adulte, il a besoin d'une figure qui reprend tout ce que Peter Pan déteste. Crochet a peur justement du crocodile qui a avalé sa main et qui a avalé ce fameux réveil matin. Parce qu'il sait que sa vie est comptée, que ses instants ne vont pas durer éternellement. Il n'est pas, au contraire de Peter Pan, dans l'instantanéité. Il est au courant que ses actes ont forcément des conséquences et que s'il fait une action aujourd'hui, elle aura sans doute des répercussions dont il devra se préoccuper le lendemain et les jours suivants. Autant dire que tout pirate qu'il est, le capitaine Crochet a de quoi se faire largement quelques cheveux blancs. Alors, ce qu'on sait de Crochet, c'est que certes, il est un adulte, mais qu'il est extrêmement cultivé. D'après la description que nous fait James Matthew Barry, il porte une redingote fort élégante et surtout, il porte un nœud de cravate fort significatif. Il porte le nœud d'Eton, ce qui nous fait dire et qui fait dire à James Matthew Barry que Crochet aurait également poursuivi des études avancées. Or, notre Peter Pan, lui, ne va pas à l'école. Il ne va pas à l'école. Il est tout simplement presque comme ces hommes sauvages qu'on a pu retrouver, ces enfants sauvages qu'on a pu retrouver notamment dans les forêts d'Aveyron ou d'Ardèche au XVIIe et XVIIIe siècle, sans aucun code. Peter Pan, c'est presque, je dirais, l'homme de nature rêvé par Rousseau. Alors avec le caractère belliqueux et meurtrier en moins, bien entendu. Crochet doit donc être tout ce que réprouve Peter Pan. Le fait d'avoir accepté de vieillir, de se conformer malgré tout à une norme. Parce que être pirate obéit quand même à des règles. Il y a un code de la piraterie. Or, Peter Pan n'accepte aucune règle sauf celle qu'il a édictée lui-même, bien évidemment. C'est pour ça qu'il porte le costume de hors-la-loi, parce qu'il est hors de toutes les lois sauf celle qu'il a créée pour Neverland. Mais Peter Pan est une œuvre particulière surtout. Au départ, James Matthew Barry écrit Le Petit Oiseau Blanc, où il va planter justement la personnalité, le caractère et l'image même du personnage de Peter. Puis il va la faire évoluer dans cette pièce de théâtre qui portera le nom de Peter Pan et Wendy. Et durant toute sa vie, James Matthew Barry va n'avoir de cesse de remanier sans cesse son histoire en fonction aussi de l'accueil que fait le plus jeune public. C'est aussi pour ça, comme je l'ai dit auparavant, qu'il décide d'introduire la poudre de fées afin de dissuader les petits britanniques de faire tout simplement ce que font Peter et ses amis, c'est-à-dire de voler pour se rendre au pays imaginaire et donc de se mettre en danger et de se blesser très gravement. Il y avait eu bon nombre de cas. Pourquoi James Matthew Barry remanie-t-il sans cesse toujours la même histoire? Pourquoi recommence-t-il? Qu'essaie-t-il de cacher? Qu'essaie-t-il de réparer peut-être? Y a-t-il eu dans sa vie un souvenir douloureux? Quelque chose qui l'obligerait sans cesse à trouver une certaine, à essayer du moins de trouver une certaine rédemption? Eh bien oui. James Matthew Barry a créé le personnage de Peter Pan tout simplement pour être d'une certaine façon son alter ego. Alors non, James Matthew Barry ne tuait pas les petits camarades de jeu qui ne lui servaient plus, ça c'est fait, ça c'est un fait, il n'avait pas de pulsions meurtrières, ni caustiques, ni méchantes comme peut les avoir son personnage en fonction de ses humeurs. Mais James Matthew Barry a été Peter Pan tout simplement parce qu'il a arrêté, il a souhaité arrêter de grandir. Vous allez me dire, mais comment un adulte, puisque James Matthew Barry a quand même atteint l'âge adulte, a-t-il pu décider de grandir, d'arrêter de grandir ? Il a arrêté de grandir physiquement. Et c'est ce que je vous propose de vous raconter maintenant. Peter Pan a existé. Non, je ne suis pas folle. Et oui, je peux le prouver. Peter Pan a existé. Parce que Peter Pan, c'est ni plus ni moins que James Matthew Barry, celui qui a créé le personnage de Peter, de ce petit oiseau blanc qui a ensuite évolué pour prendre corps dans la pièce de théâtre Peter and Wendy. James avait un frère, David, auquel il était très attaché. David, des deux, était l'aîné. Ils étaient très proches et occupaient le plus clair de leur temps ensemble. Or, dans sa 14e année, David meurt. La mort de l'aîné traumatise passablement, comme vous vous en doutez, toute la famille et surtout la mère de James Matthew Barry. Madame Barry ne se remet pas de ce deuil, au point même où elle refuse d'accepter l'idée du décès de son fils. James ne supporte pas de voir sa mère dépérir un peu plus chaque jour. Alors, pour lui redonner le sourire, il va faire quelque chose d'impensable, d'inimaginable. Il va refuser d'être James. Il va prendre l'identité, le prénom, la mise, les habits, la stature de son frère aîné. Il ne se fera plus appeler James. Pour elle, uniquement pour elle, il portera le prénom de David. Et sa mère n'y voit que du feu, car il arrive à grimer sa voix et à reprendre la voix de son frère aîné. Sa mère n'a pas jeté, elle ne s'est pas débarrassée comme on pouvait le faire assez souvent lors d'un deuil d'un être cher, des affaires. Elle a conservé les vêtements, les draps du lit, les affaires du jeune disparu. James n'a donc pas trop de mal à entrer dans les vêtements de son frère. Il porte donc les habits de David. Il va grandir avec ceci. Seulement voilà, James aurait dû continuer à grandir et les vêtements de David auraient dû finir par devenir beaucoup trop petits et ne plus lui aller. Sauf que James est aussi profondément touché par la disparition de ce frère. Et il s'est sans doute, d'une certaine façon, accoutumé à la situation, accoutumé à ce schéma, à ce scénario qu'il a instauré pour sa mère, mais aussi et surtout pour lui. Le corps et l'esprit vont donc faire le reste. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la croissance de James Matthew Barry va s'arrêter net. Il ne dépassera jamais, même de son âge adulte, le 1m50, c'est-à-dire ni plus ni moins que la taille qu'avait son frère David au moment de sa mort à 14 ans. James Matthew Barry va donc être associé toute sa vie durant à son frère disparu. Pour sa mère, et ce jusqu'à la fin de ses jours, il ne sera plus question de deux enfants, mais d'un seul, de son préféré, de David. James aura cessé d'exister. Or, à la mort de David, James avait 6 ans. Ils avaient quand même 8 années d'écart. Je vous laisse imaginer pendant des années de devoir s'astreindre à un tel scénario, à un tel quotidien, la douleur, le contrôle dont James Matthew Barry a dû faire preuve. Et donc, il a voulu sans doute coucher tout cela par écrit et essayer sans cesse de remanier cette histoire pour y trouver un certain apaisement. James Matthew Barry n'aura pas d'enfant, du moins pas d'enfant pas d'enfant légitime, pas d'enfant qu'il aurait eu par une union. Il aura des enfants adoptifs. La fortune de James Matthew Barry et de ce qu'il adviendrait ensuite de l'œuvre de Peter Pan, il la transmet à un hôpital pour enfants en faisant de celui-ci son légataire. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Cet hôpital londonien gère les intérêts de James Matthew Barry et s'occupe de vérifier que les adaptations de cette œuvre et les multiples adaptations de Peter Pan ne dévient pas trop du canon souhaité et voulu par l'auteur. Il y a quelques années, j'étais alors scolarisée en classe de première, en section européenne en anglais, et notre professeur d'anglais, que je salue d'ailleurs de l'époque, avait décidé de nous proposer, en lecture suivie sur toute l'année, l'œuvre de Peter Pan et plus particulièrement une suite officielle. Alors, pour bon nombre de grands chefs-d'œuvre, il existe des suites plus ou moins officielles. Certaines ont même eu la chance d'avoir été validées par la famille de l'auteur. C'est notamment le cas, par exemple, pour la famille de Flaubert, qui aura validé une suite de Madame Bovary, qui est Mademoiselle Bovary, qui est excellente et que je vous recommande, sur l'histoire sur la fille de Emma Bovary. Et bien là, nous avons tous été surpris de constater qu'il y avait eu une suite officielle à Peter Pan qui venait d'être écrite et qui résultait d'un concours organisé justement par cet hôpital qui gère donc les intérêts et l'œuvre de James Matthew Barry, même à titre toujours posthume. Et donc elle proposait à des écrivains, autant amateurs que confirmés, de faire parvenir des manuscrits et d'écrire une histoire, une suite à l'histoire de Peter Pan. Il y a eu énormément de manuscrits et un seul a remporté le gros lot. Et le titre est très évocateur, c'est « L'habit rouge de Peter Pan ». Pourquoi cet habit rouge? Alors, si vous vous souvenez, au tout début de notre récit, j'ai évoqué avec vous l'adaptation Peter Pan voulue par Walt Disney en faisant référence notamment au moment où Peter Pan prend le commandement du navire de crochet et revêt du coup les attributs du capitaine, à savoir le chapeau à plumes retombantes, mais également la redingote, la veste de crochet et son épée qu'il met aux côtés. Et c'est justement de cette redingote, de ce vêtement dont il va être question, puisque là, et c'est très justement fait dans l'adaptation de Walt Disney, il est rouge. Et c'est pas un hasard, parce que justement c'est de cet habit dont il va être question. Ça va être le fil conducteur de toute l'adaptation. C'est tout simplement que, en fait, quand on porte les habits de quelqu'un d'autre, on devient cette personne. Lorsque Peter Pan a revêtu les attributs de crochet, il est devenu crochet. Alors au moment où l'histoire commence, Wendy, que l'on retrouve, est très âgée, c'est une auguste grand-mère et qui se retrouve confrontée à un appel venant du pays imaginaire. Or, comme je vous l'ai dit, les adultes ne peuvent pas s'y rendre. Il va falloir trouver un moyen de pouvoir revenir au pays imaginaire. Et on le peut en revêtant soi-même des vêtements d'enfant. Et donc, une petite troupe va pouvoir revenir au pays imaginaire et comprendre ce qui est en train de se passer. Comprendre que Peter Pan, qui est devenu en fait d'une certaine façon crochet, n'est plus Petit garçon insouciant, le maître du pays imaginaire, celui qui imposait ses parties de jeu si particulières à tous les habitants de Neverland, etc. Au contraire, il est sombre, il est taciturne, il est inquiet. Bref, la situation est presque catastrophique. Il faut littéralement sauver Peter parce que celui-ci est en train de dépérir, voire presque de mourir. Et ça va être donc une opération de sauvetage qui va faire traverser à toute cette petite troupe, eh bien Neverland, de long en large, passer notamment par un cirque et finir par rencontrer Peter et le trouver extrêmement affaibli. Autant dire qu'il ne correspond plus du tout à l'image du Peter triomphant qu'ils avaient connu auparavant. Et c'est une opération presque chirurgicale dont il va être question parce qu'il va falloir opérer Peter au cœur. Puisque c'est dans le cœur que se trouve tout le problème, il faut retirer ce qui n'appartient pas à Peter. Il faut retirer la partie de crochet qui s'est accrochée justement à Peter. Il faut enlever ce méchant voile pour libérer Peter. Alors autant dire que ça sera fait et que Peter Pan retrouvera l'insouciance et ses traits habituels. J'ai adoré cette histoire qui est bien dans la continuité de l'œuvre de Barry, mais en même temps de celle de Walt Disney. Je ne connaissais pas, il faut le dire, l'histoire assez tragique de James Matthew Barry. Je n'avais connaissance jusque-là de l'adaptation de Peter Pan que par Walt Disney. Je n'avais pas saisi tous ces petits clins d'œil qu'il y a durant toute l'adaptation. En me renseignant sur la vie de James Matthew Barry, autant dire qu'on voit on découvre Peter tout à fait autrement et le personnage est assez glaçant. Et bien évidemment, la psychanalyse s'est emparée du sujet, en a fait un syndrome, ce fameux syndrome de Peter Pan qui est assez ridicule, il faut quand même le dire, pour catégoriser certains malades qui s'enferment dans certains types de psychose, dans un âge particulier, donc on les catégorise ainsi. Je pense pas que James Matthew Barry eût été ravi de là où il était d'apprendre que son personnage avait servi à de telles fins. Alors il y aura prochainement une autre adaptation de Peter Pan, centrée cette fois-ci autour de Wendy, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que je ne vois pas trop sous quel angle de vue on pourrait avoir à mettre Wendy en avant, sachant qu'elle est un personnage de seconde zone par rapport au temps presque à Peter qu'à Crochet, je dirais même presque à Lily la Tigresse, ou même à Clochette. Ça va être intéressant. Mon adaptation préférée de Peter Pan, c'est pas tant celle de Walt Disney, c'est Hook, où là c'est une part belle accrochée qui est faite. Mais bon, ça reste quand même un bon moment où, eh bien, même si le personnage de Peter voulu par James Matthew Barry est assez tourmenté, assez torturé, assez méchant, eh bien, c'est aussi l'expression de toute la douleur, de toute la souffrance de son auteur qu'il va camoufler, tant bien que mal. Aujourd'hui, Peter Pan est une œuvre intemporelle. Peter Pan est un personnage aimé des enfants. Et après tout, si ses mauvais travers, on les a un peu oubliés, ce n'est pas si mal.